L'île au trésor par Robert Louis Stevenson, 9e cassette, première face, page 200. Après avoir salué de façon impeccable, l'orateur, un grand gaillard de 35 ans, dégingandé, aux yeux jaunes, à la mine patibulaire, se dirigea froidement vers la porte et quitta le fortin. Ses camarades suivirent son exemple l'un après l'autre. Chacun salua en passant. Chacun ajouta une excuse. « C'est conforme aux règles, » dit l'un. « Conseil de gaillard d'avant, » déclara Morgan. Et tous s'en allèrent ainsi, me laissant seul avec Silver, dans le fortin éclairé par la torche. Le cuisinier retira immédiatement sa pipe de sa bouche, puis me dit d'une voix ferme, mais à peine perceptible. « Écoute-moi bien, Jim Hawkins. Tu es à deux doigts de la mort, et chose bien plus terrible, de la torture. Ils vont me balancer, mais fais bien attention à mes paroles. Je reste de ton côté, quoi qu'il arrive. J'en avais pas l'intention jusqu'à ce que tu aies raconté ton histoire. J'enrageais de perdre tout ce magot et d'être pendu par-dessus le marché. Mais j'ai vu que t'étais un gars à la hauteur. Je me suis dit, si tu soutiens Hawkins, John, Hawkins te soutiendra. Tu es sa dernière carte. Et Miltonnerre, John, lui, c'est ta dernière carte à toi. Faut s'épauler, nous deux, que je me suis dit. Sauve ton témoin. Et il te sauvera de la potence. Je commençais à comprendre vaguement. Vous voulez dire que tout est perdu ? Demandai-je. Oh, foutre oui ! Du moment que le bateau a disparu, nous sommes fichus. Un point, c'est tout. Quand j'ai regardé la baie et que j'ai plus vu la goélette, Jim Hawkins, eh bien, malgré que je sois un dur à cuire, j'ai abandonné la partie. Pour ce qui est de cette clique et de leurs conseils, crois-moi, c'est tous des idiots et des capons. Je te tirerai d'entre leurs pattes si je peux. Mais attention, mon petit Jim, donnant, donnant. Tu sauveras Long John de la potence. J'avais peine à en croire mes oreilles. Ce qu'il me demandait, lui, le vieux boucanier, le chef de la bande depuis le début, me paraissait absolument impossible. Je ferai tout ce que je pourrai, lui dis-je. Marché conclu, s'écria-t-il. Tu as parlé crânement et Miltonnerre, il me reste une chance. Il clopina jusqu'à la torche fichée dans le tas de bois à laquelle il ralluma sa pipe. Comprends-moi bien, Jim, dit-il en revenant sur ses pas. Faut pas t'y tromper. J'ai la tête sur les épaules. À présent, je suis du côté du châtelain. Je sais que tu as mis le bateau en sûreté quelque part. Comment tu as fait ton compte, j'en sais rien. Mais il est bel et bien en sûreté. Je suppose que Hans et O'Brien ont tourné Kazakh. J'ai jamais eu beaucoup de confiance en eux. Écoute-moi bien, Jim. Je pose pas de questions et je permettrai pas aux autres d'en poser. Quand une partie est perdue, je m'en rends compte. Et quand un gars est sûr, je m'en rends compte aussi. Ah, toi qui es jeune, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ensemble, toi et moi ? Il ouvrit le robinet du baril de cognac et emplit un gobelet d'étain. Veux-tu y goûter, camarade ? Me demanda-t-il. Puis, sur mon refus, il ajouta. Moi, je vais en avaler un bon coup. J'ai besoin de me calfater l'estomac, car va y avoir du grabuge. Et à propos de grabuge, pourquoi que sacré docteur m'a donné la carte, Jim ? Mon visage exprima un étonnement si sincère qu'il jugea inutile de me poser d'autres questions. Pourtant, il me l'a bel et bien donné, reprit-il. Il y a quelque chose là-dessous, Jim. Il y a sûrement quelque chose. Ça fait pas de doute. Du bon ou du mauvais. Sur ces mots, il avala une autre rasade de cognac, puis secoua sa grosse tête blonde comme un homme qui s'attend au pire. Chapitre 29. Je revois la tache noire. Le conseil des boucaniers durait déjà depuis un bon moment quand l'un d'entre eux rentra dans le fortin, et après avoir fait le même salut, qui à mes yeux semblait ironique, demanda la permission d'emporter la torche pour un instant. Silver ayant acquiescé, le messager se retira, nous laissant tous les deux plongés dans l'obscurité. « Le grain se lève, Jim, » me dit Long John, qui avait adopté avec moi un ton amical et familier. Je regardai par la meurtrière la plus proche. Les braises du grand feu, presque entièrement consumées, jetaient une si faible lueur que je compris pourquoi les conspirateurs avaient eu besoin de la torche. Ils étaient rassemblés à mi-chemin entre le fortin et la palissade. L'un d'eux tenait la lumière, un second était agenouillé au milieu du groupe, et je vis dans sa main la lame d'un couteau ouvert briller de couleurs diverses à la clarté de la torche et de la lune. Tous les autres, courbés vers lui, semblaient observer ce qu'il faisait. Je pus seulement distinguer qu'il avait, outre son arme, un livre. J'étais encore en train de me demander comment ils avaient pu se procurer un objet si inattendu, quand le pirate agenouillé se releva et se mit en route vers le fortin, suivi de toute la troupe. « Ils reviennent !» dis-je en regagnant ma place, car il me paraissait indigne de moi qu'ils me trouvent en train de les épier.
« Eh bien qu'ils reviennent, mon gars !» répliqua Silver avec bonne humeur. « J'ai encore plus d'un tour dans mon sac. »
La porte s'ouvrit, et les cinq hommes, massés sur le seuil, poussèrent l'un d'eux en avant. En toute autre circonstance, il eût été comique de le voir marcher, hésitant à poser ses pieds sur le sol, tenant devant lui sa main droite fermée.
« Approche, mon garçon !» cria Silver. « Je vais pas te manger !»« Passe-moi ça, marin d'eau douce. Je connais les règles, pour sûr. C'est pas moi qui ferai du mal à un délégué. »
Ainsi encouragé, le boucanier pressa le pas et, après avoir donné quelque chose à Long John, de la main à la main, battit en retraite encore plus rapidement vers ses compagnons. Le cuisinier regarda ce qu'on venait de lui remettre. « La tache noire !» s'exclama-t-il. « C'est bien ce que je pensais. Et d'où diable avez-vous tiré le papier ?»«
Eh, dites donc, ça alors c'est pas de veine. Vous avez coupé ça dans une Bible ? Quel est l'idiot qui a abîmé une Bible ?»«
Voilà, je vous l'avais bien dit !» s'écria Morgan. « Il n'en sortira rien de bon, je vous ai dit !»«
Ma foi, vous vous êtes réglé votre compte vous-même, » reprit Silver. « Pas de doute. Vous serez tous pendus. Quel est le pauvre ramolli qui avait une Bible ?
Dick, répondit un des boucaniers.
Alors Dick peut faire sa prière. Il a eu sa part de chance en ce monde, mais maintenant c'est fini. Je vous en fiche mon billet.
À ce moment, le grand maigre aux yeux jaunes intervint.
Assez jaspiné, John Silver, dit-il. L'équipage, réuni en conseil comme ça se doit, t'a collé la tache noire. Maintenant, comme ça se doit, retourne le papier et vois ce qui est écrit. Ensuite, tu pourras causer.
Merci, Georges. Tu as toujours mené rondement les affaires et tu connais les règles par cœur, ce qui me fait bien plaisir. Voyons un peu de quoi il s'agit. Ah, déposer. C'est bien ça, non?
Joliment écrit, pour sûr. On jurerait que c'est de l'imprimé.
Ton écriture, Georges ?
Ma parole ! Tu deviens un vrai chef dans cet équipage. Tu serais bientôt capitaine, que ça m'étonnerait pas.
Veux-tu être assez aimable pour me passer la torche, dis ? Ma pipe tire mal.
Allons, dit Georges, finis de te payer la tête de l'équipage. T'es un farceur, tu le reconnais toi-même. Mais à présent, t'es liquidé comme capitaine et tu pourrais te donner la peine de descendre de ton tonneau pour prendre part au vote.
« Je croyais que vous aviez dit que vous connaissiez les règles, » répliqua Silver d'un ton méprisant. « En tout cas, si vous ne les connaissez pas, moi je les connais. Je reste ici et je suis toujours votre capitaine, faites-y bien attention, jusqu'à temps que vous ayez sorti ce que vous avez à me reprocher et jusqu'à temps que j'aie répondu. En attendant, votre tache noire, elle vaut pas un clou. Après, on verra.
Oh, t'as pas besoin d'avoir peur. Nous, on est tous réguliers, dit l'autre. Edin, t'as fait un beau gâchis de ce voyage. T'aurais un sacré toupet de dire le contraire. Et deux, t'as laissé nos ennemis sortir de ce traquenard sans aucune garantie.
Pourquoi qu'ils ont voulu filer, j'en sais rien. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils l'ont voulu. Et de trois, tu nous as pas laissé tomber sur eux pendant qu'ils s'en allaient.
Oui, mais on y voit clair, John Silver. Tu veux jouer double jeu, c'est ça qui cloche chez toi. Et de quatre, il y a ce gamin.
C'est tout ? Demanda le cuisinier d'un ton calme.
Et ça suffit largement. On ira tous sécher au bout d'une corde à cause de tes bousillages.
Bon, dit John Silver. Eh bien, je vais répondre sur ces quatre points.
Je vais y répondre l'un après l'autre. J'ai fait un beau gâchis de ce voyage, à ce qui paraît. Mais dites-moi, vous savez tous ce que je voulais. Et vous savez que si ça avait été fait, on serait à 7 heures à bord de l'Hispaniola, tous bien vivants, en bonne forme, le ventre plein de pudding et le trésor dans la cale, mille tonnerres. Et qui s'est mis à la traverse? Qui m'a forcé la main? À moi, votre capitaine légitime. Qui m'a collé la tache noire le jour qu'on a débarqué? Qui a commencé la danse? Ah, une jolie danse que c'est. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Et elle ressemble bougrement à une gigue au bout d'une corde sur le quai des exécutions dans la bonne ville de Londres. Mais à qui la faute? À Anderson, à Hans, et à toi, George Merry. Et toi, qui es le seul survivant de ce trio de bousilleurs, tu as le toupet infernal de vouloir être capitaine à ma place, toi qui nous as tous coulés. Mille tonnerres! Mais j'ai jamais rien entendu de plus ahurissant.
Silver se tut, et je pus voir, d'après les expressions de George et de ses anciens camarades, que son discours n'avait pas été vain.
Ça, c'est ma réponse numéro un, s'écria l'accusé en essuyant son front ruissant de sueur, car il venait de s'exprimer avec une véhémence à ébranler le fortin. Tonnerre, je vous le dis, j'en ai plein le dos de vous parler. Vous avez pas plus de bon sens que de mémoire. Et je me demande où vos mères avaient la tête quand elles vous ont laissé prendre la mer. Vous sur la mer? Pah! Vous des gentils hommes de fortune? Allons donc, vous auriez dû être tailleur.
Continue, John, dit Morgan. Explique-toi sur le reste.
Le reste, parlons-en. Vous dites que ce voyage est bousillé. Ah, sacrebleu, vous pouvez pas savoir comment qu'il l'est bousillé. Nous sommes si près de la potence que j'en ai le cou tout raide rien que d'y penser. Vous les avez vus peut-être, les gars accrochés au bout de leur chaîne, avec les oiseaux qui volent tout autour et les marins qui les montent du doigt en s'en allant avec la marée. Qui est celui-là, dit l'un? Celui-là? Ah, c'est John Silver, je l'ai bien connu, répond l'autre. Et ils peuvent entendre cliqueter les chaînes pendant qu'ils virent de bord pour atteindre la bouée suivante. Voilà à peu près où nous en sommes, tous sans exception, grâce à George, à Hans, à Anderson et aux autres satanés idiots de leur espèce. Pour ce qui est du quatrième point, le gamin, ce gamin, voyons mille sabords, est-ce que c'est pas un otage? Et est-ce que nous allons perdre un otage? Sûrement pas, car ça pourrait bien qu'il soit notre dernière chance. Notre dernière chance. Tuer ce gamin, comptez pas sur moi pour ça, camarade. Et le troisième point? Ah, il y a pas mal à dire sur le troisième point. Peut-être que vous trouvez que c'est rien d'avoir un vrai docteur diplômé qui vient vous voir tous les jours. Toi, John, avec ton crâne fêlé, et toi, George Merry, qui grelottait de fièvre il y a pas plus de 6 heures, et qui a encore maintenant les yeux jaunes comme une peau de citron. Et peut-être que vous ne savez pas non plus qu'il y a un bateau de secours en route. Mais il y en a un, et pas tellement loin. Et nous serons trop contents d'avoir un otage quand il sera arrivé. Pour ce qui est du deuxième point, ce marché que j'ai fait, vous me l'avez demandé à genoux. Et d'ailleurs, si je ne l'avais pas fait, vous auriez tous crevé de faim. Mais tout ça, c'est rien. Tenez. Regardez pourquoi j'ai traité avec le docteur.
Se disant, il jeta sur le sol un objet que je reconnus immédiatement. La carte, tracée sur du papier jaune, avec les trois croix rouges que j'avais trouvées au fond du coffre du capitaine, enveloppée dans de la toile cirée. Pourquoi le docteur la lui avait remise, c'était plus que je ne pouvais imaginer. Mais si l'apparition de la carte me sembla inexplicable, elle frappa de stupeur les mutins survivants. Ils se jetèrent dessus comme des chats sur une souris, se la passèrent de main en main, se l'arrachèrent les uns aux autres. À en juger par les jurons, les cris et les éclats de rire puérils qui accompagnaient leur examen, on aurait pu croire non seulement qu'ils palpaient de l'or de leurs doigts, mais encore qu'ils l'avaient emporté à bord de l'Hispaniola et se trouvaient sains et saufs en pleine mer.
Ouais, déclara l'un d'eux, pas d'erreur. C'est la signature de Flint, J.F., et en dessous un paraphe qui fait deux boucles.
Très joli, déclara Georges. Mais comment qu'on va l'emporter, puisqu'on n'a pas de bateau ? Silver se leva d'un bond, et s'appuyant d'une main sur le mur, il s'écria.
« Ce coup-ci, je t'avertis, Georges. Si je t'entends encore dire une insolence, je t'oblige à te battre contre moi.
Comment qu'on va l'emporter ? Est-ce que je sais, moi ? Vous devriez bien me l'apprendre, toi et les autres, qui m'avez perdu ma goélette, en vous mêlant de ce qui vous regardait pas. Que le diable vous brûle !
Non, c'est pas toi qui me le diras pour sûr. T'as pas plus d'idée qu'un cafard. Mais en tout cas, tu peux être poli. Et il faut que tu le sois, Georges Méry. Je t'en fiche mon billet.
Ça me paraît assez juste, dit le vieux Morgan.
Juste ? Je pense bien. Vous avez perdu le bateau, j'ai trouvé le trésor. Qu'est-ce qui vaut le mieux ? Vous ou moi ? Et maintenant, je vous fous ma démission. Mille tonnerres. « Élisez qui vous voulez comme capitaine. Moi, j'en ai plein le dos. »« Silver !» s'écrièrent-ils. « Vive Tournebroche ! Tournebroche reste capitaine !»«
Tiens, voilà que vous chantez une nouvelle chanson. »« Georges, mon ami, faudra que t'attendes la prochaine occasion. »« T'as eu de la veine que je sois peu rancunier, mais c'est pas mon genre. »« Et maintenant, camarade, cette tache noire, qu'est-ce qu'on en fait ?» Elle vaut pas cher, hein? Dick s'est flanqué la guigne et a abîmé sa Bible. Un point, c'est tout.
On pourra quand même embrasser le livre pour prêter serment, non?
Grommela Dick, manifestement inquiet de la malédiction qui s'était attirée.
Une Bible dont il manque un morceau? S'exclama Long John d'un ton railleur. Sûrement pas. Ça n'engage pas plus qu'un recueil de chansons.
Vrai? S'écria Dick avec une espèce de joie.
« Ma foi, je suppose que c'est intéressant à avoir aussi bien. »«
Tiens, Jim, voici une curiosité pour toi, » dit le cuisinier en me lançant le bout de papier. C'était une rondelle à peu près grande comme une pièce d'une couronne. Un des côtés était blanc, car elle avait été découpée dans le dernier feuillet du livre. L'autre portait un verset de l'Apocalypse, dont les mots suivants se gravèrent dans mon esprit. « Dehors seront les chiens et les meurtriers. » Le côté imprimé avait été noirci avec du charbon de bois qui commençait déjà à se détacher du papier et me salit les doigts. Sur le côté blanc, on avait tracé avec la même substance le mot « déposer » D-E sans accent, 2-P-O-S-E accent aigu. Au moment où j'écris ces lignes, j'ai ce curieux objet sous les yeux, mais toute trace d'écriture a disparu. Il ne reste plus qu'une éraflure, comme on pourrait faire un coup d'ongle. Ainsi prit fin cette soirée mouvementée. Un peu plus tard, après avoir bu à la ronde, nous nous préparâmes à dormir. La seule vengeance de Silver continua à placer George Merry en sentinelle en le menaçant de mort s'il manquait à son devoir. Il me fallut beaucoup de temps avant de pouvoir fermer l'œil et Dieu sait que j'avais plusieurs sujets de réflexion. L'homme que j'avais tué au cours de l'après-midi, la situation périlleuse dans laquelle je me trouvais, et par-dessus tout, le jeu remarquable mené par Silver, qui d'une main tenait les mutins tous ensemble, et de l'autre s'efforçait de saisir tous les moyens possibles et impossibles de se réconcilier avec ses adversaires pour sauver sa misérable existence. Lui-même dormait paisiblement, en ronflant très fort. Pourtant j'avais pitié de lui, malgré sa cruauté, en songeant au sinistre danger qui l'entourait, et à l'infâme potence qui l'attendait. Chapitre 30. Prisonnier sur parole. Une voix claire et vigoureuse venue de la lisière du bois me réveilla, ou plutôt nous réveilla tous, car je vis que la sentinelle elle-même, qui s'était assoupie contre un montant de la porte, se redressait brusquement.
« Ohé, Dufortin ! » criait-on. « Voilà le docteur !»
C'était le docteur en effet. Bien que je fusse heureux d'entendre le son de sa voix, ma joie n'était pas sans mélange. Je me rappelais, en rougissant de honte, mon indiscipline et ma dissimulation. En songeant au danger qu'elle m'avait fait courir, au compagnon qu'elle m'avait donné, je sentis que je n'oserais pas le regarder en face. Il avait dû se lever pendant la nuit, car il faisait à peine clair. Après avoir couru à une meurtrière et regardé au dehors, je le vis plonger jusqu'à mi-jambe dans le brouillard traînant au ras du sol, comme Silver le jour de son ambassade. « C'est vous, docteur !» s'exclama Long John, aussitôt bien éveillé et débordant de cordialité. « Bien le bonjour, monsieur. Pour sûr, vous voilà frais et dispos de bon matin. Comme dit le proverbe, c'est le premier levé qui est le mieux servi. Georges, secoue-toi un peu, mon fiston. Aide un peu le docteur à passer par-dessus le bastingage. Tous vos malades vont bien. Ils sont en bonne voie et pleins d'entrain. » Il bavardait ainsi, debout au sommet du tertre, sa béquille sous son coude, une main contre la paroi du fortin, tout à fait semblable au Long John d'autrefois par sa voix, son attitude et son expression. « Nous avons une grande surprise pour vous, monsieur, » poursuivit-il. « C'est un petit visiteur, un nouveau pensionnaire qui se porte comme un charme. Il a dormi comme un fonctionnaire près du vieux John, côte à côte qu'on a passé la nuit tous les deux. » À ce moment-là, le docteur Livesey avait déjà franchi la palissade et se trouvait près du cuisinier. Je l'entendis demander d'une voix altérée. « Ça n'est pas Jim ?»«
Si fait, Jim, en chair et en os. »
Le docteur s'arrêta net, mais il ne souffla pas un mot, et pendant quelques secondes, il parut incapable de bouger. « Très bien, dit-il. Le devoir d'abord, le plaisir ensuite, comme vous le diriez vous-même, Silver. Examinons vos patients. » Un instant plus tard, il entrait dans le fortin, puis, après m'avoir adressé un signe de tête sévère, commençait à s'occuper de ses malades. Il paraissait n'éprouver aucune crainte, tout en sachant certainement que sa vie ne tenait qu'à un fil au milieu de ses démons perfides. Il parlait à ses clients comme s'il eût fait une banale visite professionnelle dans une paisible famille anglaise. Je suppose que son attitude influençait les hommes, car il se comportait à son égard comme si rien n'avait eu lieu, comme s'ils étaient toujours des matelots fidèles en présence du médecin du bord. « Vous allez mieux, mon ami, » dit-il à celui qui avait la tête bandée. « Et si quelqu'un l'a échappé belle, c'est bien vous. Il faut que vous ayez le crâne dur comme du fer. »« Et vous, Georges, comment vous sentez-vous ? Vous avez une fichue couleur, mon ami. Votre foie doit être dans un triste état. Avez-vous pris mon médicament ? Dites-moi, vous autres, a-t-il pris ce médicament ? Oui, oui, monsieur, il l'a pris pour sûr, répondit Morgan. C'est que, voyez-vous, maintenant que je suis médecin de mutin, ou plutôt, je préfère ce titre, médecin de prison, poursuivit le docteur sur son ton le plus aimable, je me fais un point d'honneur de conserver tous mes hommes pour le roi Georges, que Dieu le bénisse, et pour la potence. Les boucaniers s'entre-regardèrent, mais encaissèrent ce coup droit en silence. « Dick ne se sent pas bien, monsieur, » dit l'un d'eux. « Vraiment ? Approchez, Dick, et montrez-moi votre langue. »« Ha ! Je serais très surpris s'il se sentait bien. Il a une langue à faire peur aux Français. » Les Français étaient les ennemis des Anglais, bien sûr, à cette époque-là. « Encore un cas de fièvre. »« Voilà ce qui arrive quand on abîme une Bible, » déclara Morgan. « Voilà ce qui arrive, » dit le docteur, pour reprendre votre propre terme, quand on se conduit comme des ânes bâtés, quand on n'a pas assez de bon sens pour faire la différence entre un air pur et un air emprisonné, entre la terre sèche et un bourbier pestilentiel. Naturellement, ça n'est qu'une simple opinion, mais je juge très probable que vous en verrez de dur avant de vous débarrasser de cette malaria. Camper dans un marécage, Silver, ça m'étonne de vous. Dans l'ensemble, vous êtes moins sots que tous les autres, mais vous me semblez ignorer les notions d'hygiène les plus élémentaires. » Il administra des remèdes à ces divers malades qui les prirent tous avec une humilité vraiment comique, plutôt comme les pensionnaires d'un orphelinat que comme des pirates sanguinaires. Ensuite, il reprit la parole en ces termes. « Eh bien, voilà qui est fait pour aujourd'hui. Maintenant, s'il vous plaît, je voudrais dire deux mots à ce garçon. » Et il me désigna d'un signe de tête négligent. Georges Méry se trouvait à la porte, en train de cracher, pour se débarrasser du goût d'un médicament très amer. Mais dès qu'il eut entendu les paroles du docteur, il se retourna tout rouge et cria « Non !» en lançant un juron.
Silver frappa sur le tonneau avec la paume de sa main.
Silence !
Rugit-il en promenant autour de lui un regard de lion. Puis il ajouta de sa voix habituelle.
Docteur, j'étais en train de penser à ça, vu que je sais que vous avez de l'amitié pour ce gamin. On vous est tous humblement reconnaissants de votre bonté, et comme vous voyez, on a confiance en vous, car on prend vos drogues pareil que si c'était du grog. Alors, je crois que j'ai trouvé un système pour contenter tout le monde. Hawkins, veux-tu me donner ta parole de jeune gentilhomme, car tu es un jeune gentilhomme, malgré que tu sois de famille pauvre. Oui, veux-tu me donner ta parole de ne pas filer ton câble ? Filer ton câble, ça veut dire remonter l'ancre, c'est-à-dire se sauver. Je m'empressai de prendre cet engagement. Dans ce cas, docteur, reprit Silver, vous avez qu'à passer à l'extérieur de cette palissade. Une fois que vous serez là, je vous amène le gamin qui restera à l'intérieur. Et vous pourrez causer à travers les pieux. Au revoir, monsieur. Présentez tous nos respects au châtelain et au capitaine Smollett. Fin de la première piste de la 9e cassette, page 212. L'île au trésor par Robert Louis Stevenson.